L'apport avant qu'il y ait l'amendement du gouvernement sur les cardages, on va le formuler comme ça, était un pas en avant fabuleux, gigantesque, attendu, réclamé par les associations féministes et de protection de l'enfance, qui est de poser un interdit légal d'activité sexuelle d'un majeur avec un mineur de moins de 15 ans. Point barre. Interdit légal. Vous décidez, vous choisissez d'avoir un contact sexuel avec un mineur. Vous êtes un violeur, vous êtes un agresseur sexuel selon qu'il y a ou non un acte de pénétration. C'était très clair. Là-dessus arrive M. Dupond-Moretti et son amendement posant un écartage de 5 ans minimum, maximum entre le majeur et le mineur. Cela au nom, comment qualifier? Au prétexte fallacieux de préserver les amours adolescentes. C'est-à-dire que M. Dupond-Moretti, pendant tout le débat parlementaire, s'est posé en chantre, en protecteur des amours adolescentes. Moi, je ne suis pas un censeur, je ne suis pas là pour faire de la morale, je protège les amours adolescentes. Si un jeune homme a des relations amoureuses, un jeune homme de 18 ans a des relations amoureuses avec une jeune fille de 13 ans, tout va bien, puisqu'il y a cet écart d'âge de 5 ans. Et on voit bien, enfin, il suffit d'avoir côtoyé des enfants un tout petit peu, même de loin, pour se rendre compte qu'un enfant de 13 ans ou une enfant de 13 ans qui est en 5e, 4e, est encore un enfant précisément, il commence à découvrir ce que c'est que la sexualité, qu'il est dans une maturité affective et tout ça qui n'est évidemment absolument pas celle d'un jeune adulte de 18 ans qui a passé le bac et qui continue des études. Donc, au prétexte de peut-être trois ou quatre situations particulières où effectivement il y aurait une grande relation d'amour entre un enfant de 13 ou 14 ans et un jeune de 18 ou 19 ans, M. Dupond-Moretti met ça comme une règle qui va s'imposer à tous les mineurs qui ne sont donc pas protégés quand ils ont entre 13 et 14 ans des violences sexuelles, de l'emprise, de la contrainte, de la domination de jeunes de 18 à 19 ans. J'ajoute qu'on est quand même dans un contexte où la pornographie est massivement, de plus en plus massivement consommée par les jeunes, ce qui brouille quand même un certain nombre de repères, notamment sur la normalité d'une sexualité violente, qui est quand même largement vendue par la prostitution, c'est son fonds de commerce. Et là, je vous renvoie aux actions d'Oser le féminisme, notamment sur tous ces sujets-là. Et que donc, on peut très facilement imaginer une jeune soit complètement séduite sous l'emprise d'un jeune, hyper flattée d'avoir intéressé un jeune, un grand, qui est au lycée et qui lui fera faire à peu près tout ce qu'il veut, simplement parce qu'elle n'est pas en mesure ni de dire non, ni même de savoir ce à quoi elle consent, puisque ce n'est pas du tout dans sa phase de développement comportemental et psychologique. Donc, c'est pour ça que je disais, ça détricote complètement l'avancée qui était promise d'un interdit légal clair. Ce n'est pas, ça obstrue complètement cet interdit, en sachant que par ailleurs, on sait que les violences contre les mineurs sont en train de se développer à grande vitesse, et que par exemple plus de 50% des condamnations pour viol prononcées aujourd'hui concernent des agresseurs mineurs. Donc en fait, il faudrait complètement inverser le message en disant on ne touche pas aux mineurs de 15 ans, point, point barre, y compris pour les mineurs, ça leur permettrait d'avoir une vertu pédagogique de la loi qui serait beaucoup plus efficace en disant ça. Et puis par ailleurs, donc là, ça veut dire qu'en en créant cet écartage, on se retrouve à nouveau dans la situation d'une mineure ou d'un mineur qui sera obligé, pour prouver qu'il y a eu viol, de prouver qu'il y a eu violence contrainte, menace, surprise, ce justement à quoi on voulait échapper. Donc ça, c'est le premier... C'est même pas un défaut, c'est une béance, c'est un scandale dont j'espère que le Sénat va nous débarrasser cette semaine. Ensuite, il y a, enfin, il y a pas mal d'autres points qui sont problématiques. Notamment, il y en a un qui concerne ce fameux délit d'atteinte sexuelle où, sur un amendement d'une députée, il a été rajouté que la notion de pression s'il n'y a pas l'écart d'âge, donc par le jeune qui doit exercer des pressions pour que l'atteinte sexuelle soit caractérisée. Or, précisément, on l'a vu, l'atteinte sexuelle, c'est ce qui permettait quand même de condamner des agresseurs sexuels, et quand bien même on n'arrivait pas qu'il y avait trouvé à prouver violence contrainte, menace, surprise. Or là, parler de pression, c'est réintroduire une forme de violence contrainte, menace, surprise. Donc c'est scandaleux aussi, ça aussi, ça ne doit pas passer. Bon, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait revenir par rapport à cette loi, mais ce sont les deux principaux qui me paraissent vraiment... En fait, si ça reste... ce sera encore un coup d'épée de lourd. On loupera encore une occasion, comme on l'a loupé en 2018, puisque ça fait quand même maintenant plus de 4 ans qu'on tourne autour de ces débats parlementaires-là. Il serait temps, une fois pour toutes, qu'il y ait un courage intellectuel et politique de poser cet interdit légal sans échappatoire possible. J'ajoute que là aussi, beaucoup de pays l'ont fait et que donc on ne serait pas là. On ne serait pas condamné. Alors oui, si quand même je reviens sur quelque chose, parce que dans les débats parlementaires, Monsieur Moretti dit sans arrêt que Dupond-Moretti, pardon, dit sans arrêt que si on pose pas cette proportionnalité-là, on sera condamné à coup sûr par le Conseil constitutionnel, et que donc c'est tout. Enfin, il fait un chantage à l'inconstitutionnalité du texte dans son entier. Ça ferait tout tomber parce qu'il n'y aurait pas ce principe de proportionnalité. Et alors là, je m'inscris absolument en faux contre ça. C'est une infox, c'est un hoax, c'est un, je dirais même un mensonge d'invoquer ce principe de proportionnalité, parce qu'on a l'obligation, les États ont l'obligation de garantir la protection des mineurs. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2011, G contre UK, a dit très clairement, elle était saisie de cette question, que l'Angleterre, qui a posé un interdit légal très strict, pour protéger les mineurs, a dit que l'Angleterre avait parfaitement le droit, compte tenu des enjeux de protection des mineurs, de poser cet interdit légal strict. Donc on a même une jurisprudence de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous protège, qui nous dit, qui nous indique la voie à suivre. Oui, on a le droit, et j'ajoute que la Convention des droits de l'enfant et que la Convention d'Istanbul nous imposent de formuler très clairement ces interdits dans l'intérêt supérieur de la protection de l'enfant.
Très bien, ben oui, effectivement, on en est encore loin peut-être, espérons que non. Est-ce qu'on aurait encore d'autres questions? Parce que le temps tourne, il est déjà 7h33.
Ben oui, bien sûr, il y a toujours des questions. on nous demande ben justement sur la, je vais rester sur la loi qui est en cours d'examen. Donc, Florence Imbert nous demande est-ce que pour les moins de 13 ans, on peut se satisfaire de cette loi? Est-ce qu'il n'y a pas encore des risques de correctionnalisation pour les moins de 13? On nous demande aussi, je pense que là c'est la question des résistances, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces résistances-là? On nous demande s'il y a des lobbies de pédocriminels dans les sphères de pouvoir ou est-ce que c'est de l'ignorance? Je pense qu'on peut ouvrir sur voilà, quelles sont les résistances majeures à ces changements qui, quand on t'écoute Catherine, nous paraissent être du bon sens.
Alors le seuil est à 15 ans, heureusement, il n'est pas à 13 ans. Normalement, à partir du moment où l'interdit légal est posé sans écart d'âge. Donc, moi, je considère que cette clause va disparaître.
C'est référence à l'écart d'âge, justement.
Ouais, d'accord. Alors, excuse-moi.
Ça arrive aux 13 ans, du coup.
Et du coup, je te salue, Florence, aussi. Je ne vois pas comment ça pourrait être correctionnalisé avec une loi qui est extrêmement claire posant un interdit légal. Tu me diras, le viol, c'est aussi très clair, ça n'empêche pas les correctionnalisations. Mais donc, oui, il pourrait y avoir correctionnalisation si, par exemple, pour les viols, on nommait l'acte de pénétration ou on considère, comme ce fut le cas avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 octobre 2020, que la pénétration n'était pas assez longue, profonde, significative, etc. Bon, ça, D'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer très vite, c'est un des intérêts de cette loi aussi, d'avoir intégré, grâce à des amendements de sénatrices, je crois un émanant de Laurence Rossignol, d'avoir inscrit dans la définition du viol et de l'agression sexuelle les actes bucogénicaux, ce qui nous permet donc de ne plus risquer des jurisprudences comme celle de la Cour de cassation qui était vraiment qui a été qualifiée de malheureuse dans le débat parlementaire et qui peut être qualifiée de scandaleuse. Bon. Je referme la parenthèse sur les actes bucogénitaux qui font donc désormais partie de la loi. Dans tous les cas, on aura davantage d'arguments pour contester une éventuelle tentative de correctionnalisation avec plein de guillemets, puisqu'on sait que quand un juge d'instruction a décidé de correctionnaliser une procédure, c'est très difficile d'y résister parce que souvent il le pose comme de toute façon c'est ça ou une ordonnance de non-lieu, donc entre rien ou un renvoi quand même devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle ou pour atteinte sexuelle, je vais prendre le renvoi. Donc, ce qui n'est pas un choix librement consenti. Ça aussi, je m'inscris en faux contre ce que disait M. Dupond-Moretti dans le débat parlementaire sur la correctionnalisation en disant que ça se faisait toujours avec l'accord de la victime. C'est évidemment totalement faux. Donc, et comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance? Alors, peut-être des lobbies pédocriminels. Moi, c'est pas mon hypothèse principale. Je pense que c'est le machisme de base, c'est la conviction qu'ont les agresseurs et un certain nombre d'hommes que c'est normal d'avoir accès au corps des femmes. Bien sûr, et si elles sont fraîches en plus, c'est-à-dire que si ce sont des toutes jeunes filles, ce n'est pas inintéressant. Donc, c'est plus cette certitude qu'il doit y avoir un droit d'accès garanti par le droit, ce qui est un peu le cas en ce moment, sauf les cas où on arrive à prouver violence contrainte, mais à surprise, la chasse est ouverte quand même, il ne risque pas grand-chose. Donc, c'est la garantie de l'impunité qui fait... qui fait que beaucoup d'hommes sont convaincus d'en avoir le droit. Et d'ailleurs, des agresseurs peuvent le dire à l'audience quand ils disent... quand un président, je me souviens, avait demandé à un employeur agresseur de ses salariés en disant « Mais enfin, comme monsieur, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Mais vous vous rendez pas compte, monsieur le président ? J'ai un boulot hyper stressant, j'ai quand même le droit de me déstresser. » Et le droit de se déstresser, c'était d'agresser sexuellement ses salariés. Et il était convaincu qu'il avait le droit, mais ça veut dire, c'est fort quand on le prend littéralement, penser qu'on a le droit d'imposer ces agissements-là. Et je pense que historiquement, le patriarcat, c'était la possession des femmes et des enfants. Donc, ça s'applique aussi aux mineurs, où de toute façon, ils diront rien, de toute façon, c'est pas grave. Et donc, oui, j'ai le droit aussi sur le... C'est mon fils, c'est ma fille, j'ai le droit de le faire. Même s'ils savent que c'est interdit par le droit pénal, mais qu'ils savent aussi que de toute façon, ils ne sont pas pris. Donc, ils exercent leur droit avec un grand sentiment d'impunité. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a tant d'agresseurs. J'imagine que si la réponse pénale était plus forte, plus réelle, plus déterminée, beaucoup d'agresseurs n'agresseraient pas. Et d'ailleurs, il y a eu des études pour ça, où il y avait un sondage, notamment auprès d'étudiants sur des campus universitaires, quelle est la principale raison qui vous ferait cesser d'agresser ? C'était la certitude d'être pris. Mais sauf qu'on est dans des états, dans des systèmes judiciaires où la certitude d'être pris, elle est absente. C'est l'inverse. C'est la certitude d'être impuni qui prédomine.
Oui, c'est très, très intéressant. Je pense qu'on peut entamer la conclusion par là. Si la réponse pénale était...